J'avoue que j'ai beaucoup lu en début de semaine les pages section automobile des différents journaux, notamment parce qu'on a parlé, rappelez-vous, du plan vert 2035, on vise une voiture électrique. En fait, on souhaite ne plus vendre au Québec de voitures à essence traditionnelles comme on les connaît depuis que Ford est arrivé avec son premier véhicule. Il y a une grande transformation dans le domaine des voitures. Beaucoup de gadgets, vous le voyez, c'est plus ce que c'était il y a une certaine époque, mais c'est appelé à continuer de se développer. On va vers les voitures électriques ou sinon hybrides, mais également, ce qui a retenu mon attention, c'est quand je lisais sur la voiture autonome. Je me rappelle encore, quand j'étais tout petit, on disait un jour, les voitures vont voler. Bon, je les attends toujours, celles-là, mais là, les voitures autonomes, ça semble être plus concret. C'est un article que je lisais dans la presse de Jean-Philippe Descaries. Et là, on parlait d'une entreprise québécoise qui est vraiment leader mondial dans la conduite, pas autonome, hautement autonome. Et ce mot-là m'a vraiment accroché. Je dis que ça veut dire déjà, une voiture autonome, c'est beaucoup, mais au-delà de ça. Et on va en parler ce matin. On a invité à l'émission Franz Saint-Élémy, qui est le président et le chef de l'exploitation de LidarTech, qui se spécialise dans le développement des composantes là, qu'on utilisera pour les véhicules autonomes. Monsieur Saint-Élémy, bonjour.
Bonjour Mario, bonjour à tous vos auditeurs, merci de m'avoir ce matin.
J'espère que j'ai bien prononcé votre nom de famille.
C'est parfait.
C'est parfait. Vous êtes à la tête d'entreprises vraiment dans le domaine très, très, très pointu. Là, des microprocesseurs, ce sont des composantes qui vont servir pour la voiture autonome. Et là, vous dites hautement autonome. Racontez-nous un peu ce que LidarTech fait comme entreprise.
En fait, juste pour clarifier, ouais, quand on parle de voiture, l'ultime, c'est la voiture autonome. Mm-hmm. Hautement autonome, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de fonctions qui sont prises en charge par le tableau de bord du véhicule. Donc, par exemple, le freinage d'urgence ou le bifurcage d'urgence ou même monter sur l'autoroute et sortir de l'autoroute. Donc, ce sont des fonctions qui permettent, dans le fond, au véhicule de prendre le dessus, mm-hmm, dans des moments bien précis, dans des circonstances précises. Et souvent, ce sont ce qu'on appelle des fonctions de sécurité. Parce que, essentiellement, les statistiques, c'est 1,35 millions d'individus qui meurent par année pour des accidents de voiture. C'est plus de 20 à 25 millions d'individus qui sont gravement blessés par des accidents de voiture. Et 80 à 85 % des cas, c'est l'erreur humaine. Donc, alors, parce que l'individu est distrait ou il y a la fatigue mm-hmm, ou le brouillard ou on ne voit pas. Donc, la voiture, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on développe une technologie qu'on appelle le LIDAR avec beaucoup d'algorithmes d'intelligence artificielle qui permet de cartographier l'environnement en trois dimensions et de donner une image virtuelle, un peu comme voit l'humain, de l'environnement du véhicule, mais dans un contexte de 360 degrés et qui peut aller jusqu'à 200, 300 mètres. Et ça permet justement de prendre des décisions, de permettre le véhicule de se situer dans la scène, mais aussi de prendre des décisions de conduire.
Bon, on est à combien d'années des avoirs sur nos routes, ces voitures autonomes-là? Parce que vous êtes en train de le développer, ça voit l'environnement autour, mais j'ai toujours l'impression que ça va être dans une cinquantaine d'années, puis peut-être plus. Est-ce qu'on est plus près que ça? Quoique peut-être la Californie a déjà, semble-t-il, des voitures autonomes?
La bonne nouvelle, c'est que il y a deux choses qui se passent actuellement. Donc, des compagnies comme LidarTech, nos technologies sont prêtes, donc sont développées et sont en train de se faire tester dans des environnements, évidemment, se faire homologer pour qu'on puisse les avoir sur nos routes. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que la législation est en train de suivre. Donc, le premier pays à avoir une législation permettant ça, c'est le Japon. C'était en prévision des Jeux olympiques de 2020 qui n'ont pas eu lieu, mais essentiellement, l'Allemagne vient de faire la même chose et aux États-Unis, comme vous le savez, et puis la Chine donc développe un rythme affairé. Donc, d'ici 2023 à 2024 en montant, la plupart des véhicules qui vont sortir des chaînes de production vont avoir des fonctions d'aide à la conduite qui sont hautement autonomes.
Et le Canada dans tout ça?
Le Canada doit suivre. On est un peu en retard, je dois l'avouer, au niveau de la législation. parce qu'aujourd'hui, ces fonctions-là, on est sont pas permis sur nos routes. Donc moi, on peut avoir, par exemple, ce qu'on appelle j'oublie le terme, le cruise control.
Ouais, mais, régulateur de vitesse. Ouais.
Le régulateur de vitesse, mais on doit tout le temps avoir les deux mains sur le volant.
Mm-hmm.
Alors, donc, pour que ça se passe, il faut que la loi permette, dans le fond, que le véhicule prenne le système de guidage ou et que le véhicule puisse manœuvrer sans avoir les mains sur le véhicule. Bon. Alors ça, il faut que la législation change.
Vous comprendrez ma grande inquiétude de m'asseoir dans un véhicule. Comme je m'en vais en avion, je sais qu'il y a un pilote qui est en avant. Je peux dormir sur mes deux oreilles, mais je me vois très mal prendre la 50, descendre à Montréal, puis me dire, ben, mon véhicule, je veux, emmène-moi dans le centre-ville de Montréal sans aucun problème. Ça, vous croyez qu'un jour, on va arriver à ça?
Vous avez tout à fait raison. C'est une excellente question qu'il faut qu'on se pose. Quel est le système qui est le plus sécuritaire? En fait, aujourd'hui, l'humain n'est pas le conducteur le plus sécuritaire. Ce qu'on fait, c'est qu'on augmente la capacité humaine. L'être humain ne voit pas derrière sa tête, n'est pas non plus capable de voir dans un contexte de 360 degrés. Et quand il pleut, il neige, c'est le brouillard, il fait la nuit et qu'on est fatigué, on est le plus dangereux dans nos états où est-ce que c'est le plus dangereux. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise les technologies pour augmenter les capacités humaines. Donc, si vous imaginez, par exemple, que vous ne voyez pas sur l'autoroute, sur la 50, justement, c'est souvent, j'ai fait cette route-là, c'est
ouais. Que,
quand tu fais le noir, il y a des courbes, on ne voit pas. Imaginez que le véhicule est capable de vous dire qu'il y a un véhicule qui vient dans l'autre sens et qui vous avise d'être vigilant, qui vous dit qu'il y a peut-être un obstacle, un débris ou il y a un animal qui est mort. Mais vous ne voyez pas. Mais le véhicule est capable de le voir. Alors, dans ce contexte-là, on parle vraiment d'assistance à la conduite qui augmente les capacités humaines.
Je vois, honnêtement, si ça va vers ça, puis la sécurité, elle est renforcée, elle est doublée, triplée, peut-être même plus, quadruplée pour le conducteur et ses passagers dans le véhicule, je trouve ça intéressant. Mais quand on parle de technologie, on le voit là dans les banques, dans les grandes entreprises, il y a tout le temps le côté du piratage informatique. Quelqu'un qui décide de faire un mauvais coup parce que son ex, sa femme le laissait ou l'inverse, décidait d'être spécialiste puis aller faire, pirater le système. Est-ce qu'il y a ce danger-là qui pourrait pas intervenir un jour?
Tout à fait, c'est un risque qui est présent. Par contre, tous nos systèmes, on appelle ça des systèmes qui ont une sécurité de fonctionnement. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une redondance du système, tant au niveau de la composante que du système final. Donc, le véhicule va toujours avoir un système de redondance. Donc, c'est très difficile de prendre le contrôle du système. Si vous prenez le contrôle du système, du tableau de bord, à ce moment-là, il y a le système de redondance qui prend. Il y a un système secondaire qui prend le dessus. C'est ce qu'on appelle un système de sécurité. C'est un peu comme fonctionnent les avions aujourd'hui. Donc, essentiellement, le risque, il est là, mais c'est beaucoup plus complexe que ça ne l'était quand il y a juste un système dans le véhicule.
De mémoire, j'ai lu une étude aux États-Unis, ce qu'on appelle le AAA, ou ici on a le CAA au Québec. Le triple A aux États-Unis. On disait que les détecteurs de mouvement des voitures, c'était pas fiable non plus. Puis je pense que le taux, c'était 70-75% où c'était pas fiable. Est-ce que les systèmes dont vous parlez, vous étudiez, disons que le taux va s'approcher plus d'un taux d'efficacité à 100%?
Vous avez 100% raison. Ces systèmes-là qu'on a aujourd'hui dans les véhicules ne sont pas fiables. Ils sont fiables dans des conditions idéales, mais dans des conditions comme nous, on a ici au Québec et dans les Outaouais, ce n'est pas fiable. Donc, ça prend une autre modalité. Les systèmes actuels utilisent la caméra et le radar.
Ouais.
La caméra, c'est ce qui se rapproche le plus de l'œil humain. Mais évidemment, ça prend d'autres mesures sensorielles comme le radar, mais aussi le LIDAR qui utilise des fréquences lumière. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise une technologie de laser où est-ce qu'on va pulser des millions de fois à la seconde et on va capter ce qui est reflété. Donc, ces pulses-là, s'il y a un objet dans la scène, va pouvoir nous dire, oui, il y a un objet dans la scène et on va pouvoir le recréer dans l'environnement trois-dimensionnel. Alors, c'est ce qui se passe aujourd'hui, les systèmes, ils n'ont pas, avec la caméra est facilement obstruée, si elle est sale ou s'il pleut, il y a un enjeu. Idem pour le radar, il dit, il y a quelque chose dans la scène, mais vous ne savez pas c'est quoi. Alors, donc, souvent, ce que les gens vont faire, c'est qu'ils vont arrêter le système, vont carrément le désamorcer. Mmh. Alors que quand on rajoute la troisième modalité, ben en fait, ça va intégrer dans votre système de navigation et vous allez avoir des obstacles sur votre route que vous pouvez voir vous-même, que le véhicule va détecter lui-même. Donc, beaucoup, beaucoup plus sécuritaire.
Quand même intéressant. Tantôt, vous avez parlé, les lois, les législations devront éventuellement s'adapter. Certains pays ont commencé à le faire. Vous avez parlé du Japon. Mais est-ce qu'en même temps, il ne faudrait pas prévoir une transformation quelconque sur nos routes? Je ne sais pas, ça va fonctionner comment avec des bornes un peu pour les radars, pour savoir que les voitures circulent? Est-ce que ça fonctionne comme ça?
Les fonctions que je vous parle, ce sont, par exemple, des fonctions, ce qu'on appelle de semi-autonomie. Donc, par exemple, un gestionnaire du trafic, un pilote du trafic ou un pilote d'autoroute. Donc, vous allez de Gatineau à Montréal,
ouais.
Vous rentrez sur la 50, vous programmez sur votre système, votre tableau de bord, et il va vous amener à la sortie la plus proche de votre destination et là, le véhicule va vous demander de prendre le dessus. Vous n'avez pas besoin de changer l'infrastructure pour ça. En fait, on utilise les infrastructures actuelles. Dans les villes, par exemple, on a des problèmes de congestion, on a des problèmes qui sont reliés à la pollution. Il y a souvent des voies réservées aux autoroutes, aux autobus. On peut faire la même chose, avoir des navettes autonomes qui, elles, vont rouler à basse vitesse, comme les autobus, dans un périmètre qui est contrôlé et qui va permettre sécuritairement de régler les problèmes de congestion, mais aussi rendre les routes beaucoup plus sécuritaires.
Je trouve ça vraiment intéressant. J'ai peut-être deux petites questions avant de vous laisser aller. Merci, vous êtes très généreux de votre temps. Monsieur Saint-Lémy, vous êtes président et chef d'exploitation de LEDARTEC. Vous travaillez vraiment dans les composantes, les microprocesseurs pour les véhicules autonomes. Tantôt, je vous demandais d'entrée de jeu, là, mais si vous me dites dans combien d'années je vais pouvoir me rendre Gatineau-Montréal, les bras croisés, ou encore en lisant un livre dans mon véhicule? Vous voyez ça d'un horizon d'ici combien de temps?
En fait, je peux vous dire que on a encore beaucoup, beaucoup d'années. Moi, je vous dirais d'ici une trentaine d'années peut-être.
Ah, quand même.
C'est-à-dire qu'on va avoir des voitures, la technologie va pouvoir le faire. Le problème qu'on va avoir, ce n'est pas un enjeu de technologie, c'est un enjeu humain. C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, les lois vont nous permettre d'avoir un véhicule complètement autonome qui va opérer dans n'importe quelle condition? Mais aussi, il y a l'enjeu de comment tester. Vous savez, l'être humain, on a des millions d'années de perfectionnement. Donc, comment tester tous les cas, tous les scénarios qui peuvent arriver? Donc, on fonctionne dans l'environnement virtuel actuellement.
C'est pas demain la veille.
On teste, mais ça va prendre des années à ce qu'on puisse valider tous les cas et de rendre le système assez intelligent qui est capable de prédire ou de réagir à toutes sortes de cas.
Ceci
étant dit, oui. Les véhicules, de plus en plus, depuis une dizaine d'années, deviennent de plus en plus sophistiqués et beaucoup plus sécuritaires qu'ils n'étaient avant. Et c'est l'enjeu majeur aujourd'hui.
Ce qui m'amène à ma dernière question. Vous avez dit tantôt que vous avez emprunté l'autoroute 50 à quelques reprises. Êtes-vous déjà venu à Gatineau?
Oui.
Oui, ben peut-être ça peut vous aider là à préparer votre l'avenir, en fait, tout ce que vous bâtissez. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir un détecteur de nid de poule, tu sais, pour réagir? Tantôt, vous avez dit bifurcage d'urgence, parce que on va vous dire qu'on en a un puis un autre ici, là.
C'est vrai, vous avez raison. En fait, nos routes, c'est pas juste à Gatineau, que ce soit à Montréal. C'est moins pire quand on va en région parce que la circulation est moins complexe, mais vous avez raison, les nids de poules. En fait, la technologie du LIDAR et notre technologie de fusion d'algorithmes.
Ouais.
Donc, on fusionne plusieurs données de capteurs ensemble dans un algorithme qu'on a développé. Et ça permet de développer ce qu'on appelle des pentes négatives, c'est-à-dire des fausses négatives. Donc, quelque chose qui n'est pas supposé d'être là dans...
Comme un nid de poule.
Comme un nid de poule. Alors, par exemple, on a des applications dans le secteur minier ou dans le secteur de l'agriculture où est-ce qu'il faut absolument que le véhicule détecte s'il y a un trou. Vous imaginez, on a nos systèmes qui fonctionnent dans des mines actuellement. Il y a des très gros trous dans les mines.
Mais en 30 secondes, ça sera développé éventuellement pour essayer de les éviter le plus possible, j'imagine.
Le cas d'utilisation doit inclure aussi les nid-poules et ça fait partie de ce qu'on teste.
Je vous comprends. Vous êtes vraiment gentil d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça ce matin, puis continuer votre développement. Je suis content de savoir que c'est une entreprise de chez nous, du Québec, qui travaille là-dessus. France Saint-Élémy, président chef d'exploitation de l'Edartec. Merci beaucoup. Bonne journée, bonne continuité.
Merci beaucoup. Au revoir.
Merci bien. 8h40 minutes. Donc, peut-être pas demain la veille que l'on va se promener dans ce genre de véhicule-là, mais on voit qu'il y a de la technologie qui nous aide à être de meilleurs conducteurs.